troisième et dernier volet de ce podcast sur l'autonomie protéique. Après avoir vu les motivations à se lancer dans cette pratique et le retour d'expérience de plusieurs exploitations, je vais discuter avec nos grands témoins des facilités pour, à votre tour, se rapprocher de l'autonomie protéique. Épisode 3. Les défis et les bénéfices de l'autonomie protéique. Ce que je retiens avant tout dans nos précédents épisodes, c'est qu'il n'y a pas de formule magique pour être autonome. Vous ne pouvez pas dupliquer à 100% l'autonomie protéique d'une autre exploitation. Cependant, la réflexion et la manière de prendre les décisions des autres éleveurs est une superbe ressource. Moritz, éleveur dans la Manche, le confirme.
Il faut être très 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 flexible et il faut savoir tout le temps se remettre en cause. Par contre, faut pas une année fait pas l'autre et il n'y a pas une année qui se ressemble. Même pour l'herbe, on parlait du pâturage tournant ou même les fauches, faut toujours s'adapter en fait. On fait jamais pareil d'une année pour l'autre. Et on n'est jamais dans la même situation. Comme là cette année, d'habitude le déprimage, on n'a jamais beaucoup d'herbe. Là cette année, on se retrouve avec une quantité d'herbe phénoménale à gérer. D'ailleurs, je sais toujours pas comment que je vais encore gérer tout ça, mais on essaye de faire au jour le. Faut s'adapter au jour le jour en fait. Et faut aller voir dans les parcelles, faut pas suivre quelque chose de bête et méchant, en fait. Faut vraiment aller mettre le nez dedans, quoi. Après, plus t'es accompagné, mieux c'est, parce que comme ça, tu peux en parler avec d'autres, tu peux comparer un peu ce que tu fais, et puis c'est ce qui te permet d'avancer aussi, parce qu'au début, tu te mets toujours un frein, parce que t'oses pas le faire, et puis finalement, tu vas voir les gens, tiens, il le fait, et puis le lendemain, tu dis, je vais faire pareil, et puis finalement, tu te rends compte que ça marche, et puis voilà, quoi.
Justine, la conseillère de Moritz, de la Chambre d'Agriculture, le confirme.
C'est vrai que se lancer seul, ça peut être compliqué et déjà, il faut être prêt à se poser des questions, à se remettre en question et que ça soit à la mise en place de la nouvelle culture, mais dans la conduite, dans la valorisation, voire après, si on la ressème, ou enfin, une année faisant pas l'autre, on sait jamais trop, on n'est jamais sûr à 100% de refaire ce qui a été fait avant. Donc, il y a les formations qui permettent, je pense, de découvrir des choses. Donc là, c'est un volet un peu collectif où on peut échanger avec des agriculteurs. L'idéal, nous, quand on fait les formations, c'est d'essayer d'avoir des groupes homogènes, c'est de faire une phase de découverte. Donc, on n'a que des personnes qui se posent des questions, qui vont tester ou voilà mettre en place depuis peu de temps la nouvelle chose, quoi. Et après, on va avoir du perfectionnement où là, pareil, on va avoir des groupes qui ont un peu plus l'habitude.
Même son de cloche pour Pierre qui co-gère l'exploitation familiale en Maine-et-Loire. Il apprécie le fait d'être bousculé dans ses certitudes.
Comme on a fait nous au départ, on y a été un peu à tâtons, on a pris un peu d'enrubanage à un voisin, comme je le disais. Ça nous a permis d'essayer sur un lot de vaches à l'engrais. Et puis, quand on a vu qu'on a réussi à faire des résultats de carcasse identiques à ce qu'on faisait avant avec une ration concentrée, on a transposé la chose à tout le troupeau et à l'ensemble des vaches engraissées, quoi. Après, on va pas totalement vers l'inconnu, puisqu'il y avait déjà des choses qui étaient faites sur d'autres exploitations. Donc, c'est de se renseigner, c'est d'échanger avec des éleveurs qui le font. Et puis, petit à petit, l'adapter à son système aussi, puisque chaque exploitation a des systèmes différents. Et c'est vrai que ce qui est fait chez nous, peut-être que ce sera fait différemment chez d'autres, mais qu'il y a quand même un avantage à aller chercher au maximum cette autonomie, quoi. Le rôle du conseiller, il est aussi là pour bousculer, quoi. Nous, on attend surtout ça, quoi. Quelqu'un qui vient nous dire, c'est bien ce que vous faites, entre guillemets, ça m'intéresse pas, quoi. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'on nous dise, d'accord, vous faites comme ça, mais est-ce que vous avez peut-être allé chercher autre chose? Peut-être qu'il y a une économie à faire. Et voilà, c'est tous ces petits éléments-là qui font qu'à un moment, on se dit, de toute façon, on voit bien, si on veut qu'économiquement, on y arrive, il va falloir remettre des choses en question. Et c'est petit à petit que ça a mûri dans nos têtes et puis qu'on a fait le choix d'aller mettre des choses en place, quoi.
Dans chaque retour d'expérience, ce que je retiens, c'est aussi la volonté de ne pas rester sur l'aspect économique, de vouloir agir sur les attentes sociétales qui pèsent particulièrement sur les agriculteurs. Pierre poursuit.
Alors, je sais pas si c'est de modernité, je pense que c'est plutôt s'adapter à l'évolution des choses, quoi. C'est peut-être tout simplement de se dire, si on veut encore être là demain et si les gens veulent encore des agriculteurs, faut que tout le monde évolue. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire sur cette partie autonomie alimentaire et protéines, quoi. Je dirais aujourd'hui le consommateur lambda, surtout, on voit bien, la viande, c'est pas forcément le produit à la mode, on va dire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est un peu accusé de polluer, de ceci, de cela. Et on voit bien que dans notre système, on a plutôt l'impression d'être assez vertueux, quoi, où derrière, on a des fixateurs de carbone qui sont les prairies et on les utilise à bon escient. Nos animaux pâturent, donc c'est-à-dire qu'ils ils participent aussi à l'entretien du paysage. Et derrière, ils amènent aussi une partie alimentaire aux individus. Donc je pense que c'est surtout vraiment un cercle vertueux et où on a l'impression d'être totalement en adéquation avec la nature qui nous entoure, quoi.
Le sujet du changement climatique est un enjeu d'adaptation pour toutes les exploitations. Un enjeu qui se pose dès aujourd'hui. Jérôme Pavy, responsable du service fourrage et pastoralisme à Lidl, le résume ainsi.
La question des enjeux climatiques, du changement climatique, ça pose la question de l'adaptation des exploitations. On a un système qui est un peu dominant autour de la, notamment en élevage de ruminants et notamment en élevage laitier qui est plutôt vers l'évolution de fourrage plutôt porté sur la consommation de maïs en silage de plus en plus, notamment parce que les structures s'agrandissent, que les surfaces accessibles au pâturage diminuent. Donc il y a des enjeux autour de cet équilibre-là. Donc la place de l'herbe là, par rapport aux autres fourrages dans le système alimentaire des bovins laitiers. Il faut savoir que notre dépendance protéique, elle s'est aussi beaucoup jouée autour de l'évolution de ces systèmes fourragers, notamment du développement de la part de maïs dans les systèmes d'exploitation bovins. Donc la question du changement climatique, c'est aussi de se poser la question de quels seront demain les fourrages les plus faciles à produire. Est-ce que ce sera du maïs? Est-ce que ce sera, auquel cas on restera dans une forte dépendance où il faudra trouver des substituts au soja pour venir complémenter sur le plan azoté des maïs? Ou est-ce qu'on aura encore la possibilité de produire de l'herbe de manière plus importante? On pense notamment qu'on peut élargir les périodes de pâturage avec le réchauffement climatique, qu'on pourra pâturer plus tôt, qu'on pourra pâturer plus tard et donc mieux valoriser la surface prairiale. Ceci dit, on sait aussi qu'on aura certainement des épisodes estivaux beaucoup plus secs et beaucoup plus difficiles à gérer. Donc voilà, ça demande sans doute une reconception. En fait, l'adaptation au changement climatique demande une réflexion très approfondie et sans doute une reconception des systèmes de production. Et finalement, l'autonomie protéique rentre dans cette équation et il faut finalement prendre en compte ça, à la fois l'adaptation au changement climatique et cette optimisation de l'autonomie protéique. Ça doit passer sans doute par plus de diversité dans les cultures, dans les régimes alimentaires, dans les types de récoltes, dans la diversité des fourrages récoltés, notamment pour les périodes où on est en distribution. Donc c'est très probablement tout de même une forme de complexité accrue pour demain dans la conduite des systèmes ruminants.
Justine, que nous écoutions tout à l'heure dans l'exploitation de la Manche, démontre bien cette capacité à anticiper les changements climatiques.
On a des parcelles d'essai où justement on a mis en place des prairies de fauche ou des prairies de pâturage avec différentes modalités où on va tester si des prairies riches en légumineuses ont une meilleure capacité de résistance à la sécheresse. Donc l'idée, c'est, on le sait très bien que quand il fait trop chaud et qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui pousse, mais l'idée, c'est d'avoir des fourrages qui sont capables de pousser malgré peu d'eau, en fait, et ou des chaleurs un peu plus fortes, mais toujours avec un peu d'eau. Je pense que oui, ça peut marcher. On le sait bien, la luzerne est une légumineuse qui est justement capable de pousser quand il fait plus sec. Je pense qu'effectivement, quand on va là-dessus, on a une résilience. Après, je pense aussi que la résilience, elle résulte d'une diversité. C'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin, quand on a un système assez classique, maïs-soja avec un peu d'ensilage d'herbe, au final, si le maïs, il est loupé parce que on sème tout en même temps, on a une période de sec au moment le plus stressant du maïs, on loupe la surface. Enfin, on loupe sa récolte de maïs parce que y a 20% de rendement en moins ou quoi. Là, c'est une catastrophe. Une exploitation qui fait 15 hectares de maïs, mais qui fait du bétail à côté, qui fait de l'herbe. Enfin, au final, on étale les récoltes. Alors, au niveau temps de travail, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais encore que, on a aussi prouvé que comme le travail est étalé, ça peut être plus facile à gérer et on y passe à l'hectare, on passe pas forcément plus de temps. Mais le gros avantage d'étaler les récoltes, c'est qu'on étale aussi les risques face aux aléas climatiques.
C'est peut-être l'aspect le plus réjouissant de l'autonomie protéique. Au-delà d'un projet économique, l'éleveur adopte une approche vertueuse à tous les niveaux. Attente sociétale, résilience face au changement du climat ou encore bien-être de l'éleveur et de l'animal. J'espère que l'ensemble de ces témoignages vous ont convaincu de la pertinence de l'autonomie protéique. Si vous souhaitez aller plus loin, des conseillers sont prêts à vous accompagner. Retrouvez-les en description de ce podcast. Un projet des chambres d'agriculture Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire, ainsi qu'IDEL, Institut de l'élevage, Senovia et Végépolis. Réalisé avec le soutien du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.